Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du mensuel Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Avec nous pour cette émission, Claire Pitola, députée marseillaise qui siège à l'Assemblée dans les rangs de la majorité présidentielle. Mais avant de tchatcher, comme c'est l'usage, voici le portrait de notre invité. Le petit monde médiatique, adore jargonner. Les journalistes aiment par exemple ce qu'ils appellent des bons clients. Pardonnez-moi ma franchise, mais mes confrères ne vous classent pas dans cette catégorie. Celles susceptibles de faire grimper l'audience, pimenter un article, monter la température. Car avec vous, Claire Pitola, pas d'effet de manche, pas de petites phrases assassines, pas d'envolée lyrique. De là à interpréter votre réserve et votre modération pour une absence d'épaisseur et de conviction, mais au ravi, fleurons de la presse pas pareil, cela ne nous a pas dissuadés de vous inviter pour cette grande tchatch. Et puis méfie. Aucun commentateur n'avait misé un euro sur vos chances de devenir député. Imaginez, une jeune femme, 37 ans, lors de votre candidature en 2017, sans expérience politique, sans mandat, partant à l'assaut de la deuxième circonscription, bastion de la droite marseillaise. On connaît la suite. Vous avez plié en deux, avec près de 6% d'avance, le député sortant, en place depuis 15 ans, Dominique Tian, le premier adjoint de Jean-Claude Gaudin. Vous faites partie de la génération spontanée des marcheurs. C'est une vidéo d'Emmanuel Macron, dit-on, incitant les femmes à prendre des responsabilités qui vous a incité à candidater. Vous avez le profil type des premiers de cordée qu'affectionne le président de la République. Suite à des études en sciences physiques à Marseille, vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Après un séjour en Norvège, dans le cadre d'un programme de volontariat international, vous devenez ingénieur à EDF. Titulaire d'un brevet de pilote, vous savez prendre de la hauteur. Mais à ceux qui vous reprochent d'être hors sol, vous rappelez que vous êtes né à Marseille, où vous avez grandi. Lançons donc un avertissement à vos adversaires politiques. Ils espéraient que, passé la vague Macron, vous soyez emporté par l'inévitable reflux. Méfie, car aux dernières européennes, c'est dans votre circonscription qu'En Marche a obtenu sur Marseille ses meilleurs résultats. Il vous présentait comme l'archétype du député Godillot aux ordres du président et de son gouvernement. Méfie, vous voilà parmi les 20 fondateurs d'un collectif social-démocrate sur l'aile gauche, on en parlera, de la majorité à l'Assemblée pour défendre le progrès social et environnemental. Méfie, méfie, méfie. À ce rythme, il va bientôt falloir vous exorciser. Che Guevara sort de ce corps. Une réaction au portrait?
Oui, bah écoutez, merci beaucoup. Bonjour à nos auditeurs. Bonjour. Merci de m'accueillir et merci pour ce portrait parce que, oui, effectivement, je ne fais pas d'effet de manche. Je ne fais pas monter l'audience, malheureusement.
On va voir, on va mesurer ça.
Mais c'est vrai que je suis un peu un bourreau de travail et c'est ça qui m'a incité à venir ici, donc à m'engager en politique, faire aussi. Finalement, acte d'image d'une femme qui a réussi juste à la force du travail pour apporter cette image-là en politique. Je pense que c'est important aujourd'hui de montrer que par la force du travail, on peut avancer. Alors oui, c'est un monde qui m'était étranger, mais on apprend les codes et oui, les convictions sont présentes. Donc petit à petit, par sensibilité, par compréhension de ce monde, de ce milieu, par rapprochement des personnes avec qui je peux avoir des affinités, des intérêts communs, on constitue des groupes, on appuie, on influence. Et finalement, il faut rappeler que le travail du député, c'est de voter des lois. Mais comme on est élu sur nos circonscriptions, il y a aussi un énorme travail d'influence puisque nous n'avons pas de pouvoir en local. Cependant, nous avons des attentes importantes qui nous sont reportées de nos administrés. Et donc, c'est toujours un exercice d'influence, de négociation pour pouvoir agir en local, porter aussi ces voix du local sur des échelles nationales, sur l'échelon législatif. Tout ça pour accéder à ce que veulent nos citoyens, c'est la démocratie.
Alors, vous n'êtes plus tout à fait novice, ça fait 2 ans maintenant, mais toujours sur ce registre justement, enfin de ce milieu politique que vous avez découvert en tant qu'on le disait, jeune, alors tout est relatif en politique, jeune oui, en politique de fait, femme, c'est facile venant de la société civile et n'étant pas initié à différents codes, c'est facile à porter tout ça enfin, et se retrouver en première ligne.
Non, c'est pas facile. Après, vraiment, je parle de la force du travail parce que c'est... En fait, c'est ça qui m'a un peu poussée toute ma vie. Donc, je tiens à ce mouvement En Marche parce que c'est vraiment un mouvement qui met en avant la réussite républicaine. Et je suis issue d'une famille, simple, avec des parents qui ont aussi réussi dans leurs études par la force du travail, mais avec une position sociale pas forcément toujours simple. Et ils m'ont vraiment donné ce goût du travail. Donc, c'est au fur et à mesure que j'ai gravi les étapes une à une. J'étais pas forcément une très bonne élève au lycée, mais à force de faire des passerelles, j'ai fait un IUT, j'ai fait la fac, une école d'ingénieur, je suis partie à l'étranger, et à force de pouvoir passer d'espace en espace différent, on reconnecte des mondes un peu différents, on apprend des langues différentes, vraiment, et voilà, moi c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de décloisonner un peu tout ce qui... toutes les habitudes qu'on a prises et par la force du travail ça s'obtient, mais c'est une telle richesse de rencontres différentes. Et donc la politique, c'est encore ça finalement, c'est encore un nouveau monde dont il faut que j'apprenne les codes. J'en ai déjà appris certains et je vais continuer à en apprendre, mais c'est une grande richesse et ça m'apporte une grande richesse dans ma vie personnelle aussi. Et je souhaite à beaucoup d'autres personnes de la société civile de rejoindre cette aventure qui doit évoluer. Les statuts des élus doivent évoluer parce qu'aujourd'hui, si on veut qu'il y ait plus de société civile dans le monde politique, il faut qu'on fasse évoluer ça pour que justement les passerelles soient plus faciles, pour que ce soit plus simple avec la vie personnelle. Aujourd'hui, la conciliation vie professionnelle-vie personnelle, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde de la politique. Donc c'est tout à inventer, mais par la force de la volonté, ça viendra.
Alors, comme d'habitude dans cette émission, on va partir un peu du loin pour venir au proche, le territoire. Les Européennes, on sort d'une séquence, on ne va pas s'y attarder trop longtemps, mais un résultat mitigé. Donc, ça n'a pas été la défaite espérée par certains, annoncée, de La République En Marche. Mais enfin, une deuxième position derrière le Front National. Votre regard sur
Alors
ce
moi
résultat.
Je suis quand même chagrinée par ces résultats. Bon, bien sûr, il faut qu'on soit satisfait du fait qu'on n'a pas, vraiment perdu notre électorat, qu'il y a eu un très beau travail qui a été fait du gouvernement, de la majorité, pour faire face à une crise un peu compliquée cet hiver. Pour autant, je peux pas rester satisfaite de ça, du fait que on ait le Rassemblement National en tête sur ces élections. Ça c'est quand même un premier chagrin. On doit pouvoir arriver aujourd'hui à progresser dans cette société et à rassurer les citoyens pour qu'ils n'aillent plus vers les extrêmes. C'est quand même une menace qui est importante et doublement chagrinée parce que finalement Marseille est la seule grande ville de France qui ait mis le Rassemblement National en tête. Normalement,
26,3% pour le FN.
Oui, c'est très élevé par rapport aux autres grandes villes de France. Paris et Lyon, par exemple, n'ont pas du tout eu ce niveau-là avec le Rassemblement National. Donc, on a une vraie menace. On a eu une vraie menace des extrêmes à Marseille. C'est inquiétant, pour une grande ville. C'est vraiment inquiétant. On doit pouvoir apporter autre chose. Enfin, normalement, tel que la fracture territoriale s'organise, on n'aurait pas dû avoir ce résultat-là. Ça montre quand même que Marseille est une ville très spécifique. Et alors après, j'essaie de me rassurer ou de me consoler en regardant les résultats sur ma circonscription, où là, effectivement, à force de travail de terrain, on peut dire que j'ai réussi à conforter l'électorat et à l'amplifier.
Alors là, vous faites 28,43% dans la circo.
Donc c'est vraiment un travail important parce que mon mandat est national, donc je suis quand même assez souvent à Paris, 3 à 4 jours par semaine, ce qui m'est souvent reproché parce que je ne peux pas aller voir tout le monde en même temps. Cependant, les jours où je suis à Marseille, je fais beaucoup d'efforts pour aller rencontrer un maximum de citoyens, d'associations, de différents acteurs de ma circonscription. Et je crois que le résultat est là. Ils n'ont pas perdu confiance, ils ne sont pas allés vers les partis traditionnels, ils sont restés plutôt vers En Marche et donc c'est, pour la suite je pense que c'est une impulsion à conserver pour pouvoir faire tache d'huile sur le reste de Marseille parce que vraiment, je pense qu'il faut s'attrister des résultats sur Marseille.
Et en même temps, pour parler comme Manu, ce duel entre le FN et En Marche a permis à Emmanuel Macron d'être élu président de la République, des gens qui n'étaient pas favorables à sa ligne politique ont voté pour lui. Alors, c'est pas le cas, là, c'était un scrutin un seul tour là, aux européennes, mais enfin. Et ça vous positionne, en fait, comme dans une fonction de barrage à l'extrême droite. Et ça vous arrange politiquement, les marcheurs. Et là, c'est pas très nouveau, pour le coup. On pense à François Mitterrand, qui a beaucoup joué cette carte-là.
Alors, peut-être que, enfin, voilà, c'est là où je vous dis, il faut que j'apprenne en politique, il doit y avoir des calculs de ce type-là. Moi, c'est pas du tout comme ça que je suis rentrée en politique. Il y a une vision progressiste du mouvement En Marche, et je crois que c'est ça avant tout. On voit bien que ça fait des années qu'on a les extrêmes qui montent, et donc il y a une volonté de dire, mais non, c'est pas possible, la France de demain, c'est pas une France qui se tourne vers des extrêmes, vers des conservatismes, c'est une France qui est vers le progrès. La France a toujours été dans un élan de progrès, et on doit continuer à porter ça. Donc moi, avant tout, me tourner vers le mouvement En Marche, c'est me tourner vers ce progrès, et faire en sorte qu'on puisse redonner tout un sens à cette progression sociale.
Une partie des gens qui ont voté, il ne s'agit pas de les excuser, mais c'est une analyse qui est partagée, qui ont voté RN, l'ont fait pour sanctionner le gouvernement, l'ont fait parce qu'ils étaient en souffrance sociale en particulier. On sait que les Gilets jaunes qui ont voté, beaucoup se sont abstenus, mais les Gilets jaunes qui ont voté très massivement RN et puis la France insoumise. Et là, c'est peut-être le bilan des deux premières années du gouvernement en matière sociale qui a été sanctionné. Est-ce que ça, vous l'entendez, ce message?
Oui, bien sûr.
Et comment il faut y répondre?
On l'entend d'autant plus qu'on a, au niveau de l'Assemblée, du groupe majoritaire, on a plusieurs fois tiré des sonnettes d'alarme pour dire, là, il faudrait mettre en même temps des mesures plus sociales. On va dire qu'on a commencé par libérer, par finalement donner un peu plus de possibilités au capital de se développer. Donc c'est aujourd'hui, on en tire quelques fruits qui sont intéressants au niveau de finalement de l'emploi, au niveau de la croissance. Enfin, c'est intéressant. Cependant, ça faisait une bonne année qu'on tirait la sonnette d'alarme en disant il faut accélérer sur les mesures sociales. Donc oui, on l'entend. Cet hiver, le mouvement a été effectivement. Enfin, on ne peut pas le reprocher, c'est une réalité, on a besoin de plus de mesures sociales. Moi, je me suis engagée sur le plan pauvreté assez tôt, puisque j'ai été aussi finalement mandatée pour un rapport sur l'accompagnement vers l'emploi des bénéficiaires du RSA, donc un rapport que j'ai remis au Premier ministre, et pour accélérer finalement cette application du plan pauvreté, parce que pour le coup, le plan pauvreté apporte des réponses qui sont vraiment intéressantes et qui sont dans le sens du progrès social aussi, dans le sens de nos échanges les uns entre les autres, de notre rapport à l'autre, donc c'est vraiment important. Par contre, il faut l'accélérer et c'est là où finalement ça passe par monter un groupe de travail sur l'application du plan pauvreté à l'Assemblée nationale, donc quelque chose que j'ai fait en janvier dernier. Et ça a passé aussi par ce collectif qu'on a effectivement lancé juste après les européennes, collectif social-démocrate, pour mettre en avant un progressisme social. Et donc là, on est une vingtaine de députés. Tout est transparent.
Sur combien, rappelez-nous, combien de députés marcheurs, 100, presque 200, non, je crois.
Les députés, plus
au
de
total,
200.
Plus de 200.
On est proche des 300, on était 310 300. Au départ.
D'accord. Voilà. Donc c'est peu, 20 sur 310.
C'est peu, mais le but, c'est qu'on travaille et qu'on ne se disperse pas. Donc,
alors, ça s'appelle collectif social-démocrate, c'est nouveau. Alors, des commentateurs ont dit, voilà des frondeurs.
Non, du
vous
tout. Non, justement,
c'est,
on a fait ça en transparence avec le président de groupe, donc Gilles Legendre. Vraiment, le but, c'est de dire, on est quelques-uns, on est particulièrement impliqués sur des sujets sociaux, environnementaux, dans le but d'une progression économique. Il faut pas se leurrer, on n'est pas dans une décroissance, on est juste, au contraire, pour améliorer la qualité de vie de chacun et dans le sens de la croissance. Et donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on puisse travailler plus le fond de certains sujets, utiliser nos compétences, pouvoir s'alerter et se faire passer des éléments de langage. Et donc c'est vrai que pour l'instant, on est une vingtaine. Au final, on a régulièrement des demandes de nous rejoindre, mais tout ça se fait en transparence avec Gilles Legendre, le président de groupe, parce qu'il ne s'agit pas de sortir du groupe. Il ne s'agit pas de fronder, il s'agit vraiment d'apporter des compétences, des éléments de compréhension, parce que chacun, on a bossé spécifiquement sur certains sujets et qu'on va mutualiser nos compétences. pense.
Alors, vous revenez sur la technique, mais quand même, il y a un manifeste de ce, on va l'appeler le CSD. Et il y dit des choses qui quand même invalident des choix qui ont été faits ces derniers mois. Par exemple, vous dites, nous ne croyons pas à la théorie du ruissellement. Pour les auditeurs, le ruissellement, c'est cette idée que, en distribuant l'argent peut-être aux plus riches, aux premiers de cordée, à ceux qui font l'économie, ça va avoir un effet pour les plus pauvres. Alors, vous y croyez pas? Est-ce que vous partagez ce point de ce manifeste?
Il faut une économie prospère, mais il faut qu'on fasse des investissements importants dans le social et dans le soutien globalement de, enfin, que ce soit le déterminisme social, la lutte contre la pauvreté ou le soutien des accidents de la vie. Je crois qu'on répète jamais assez personne n'est à l'abri des accidents de la vie qui peuvent faire basculer. Et après, on a tous besoin à un moment d'être accompagnés. Et donc oui, il faut faire plus d'investissements dans ces politiques-là, politiques d'éducation tout au long de la vie. C'est essentiel pour une société qui veut progresser et qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Donc la théorie du ruissellement, oui, qu'on ait des entreprises prospères et que va faire profiter des territoires, oui, mais ça suffit pas. Il faut aussi investir pour soutenir les accidents de la vie, pour stopper le déterminisme social. C'est pas possible en France qu'on continue à mettre plusieurs générations à sortir de la pauvreté.
C'est Le Monde qui titrait il y a quelque temps comme ça, les ultra-riches, les grands gagnants de la fiscalité Macron. Et cette expression de Macron, président des riches, pour l'instant on parle pas de président des pauvres.
Oui, oui. Non, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui va nous coller longtemps. Ouais. Mais justement, on a, enfin, vraiment, le plan pauvreté est un formidable outil. Il y a une vraie dynamique qui commence à se mettre en place sur les territoires. Ce groupe de travail que j'ai monté au sein de l'Assemblée, il y a plus d'une cinquantaine de députés qui veulent se partager les infos sur qu'est-ce qui se passe sur leur territoire, sur quels acteurs il faut rencontrer, quels acteurs il faut mobiliser. C'est un outil vraiment qui est très puissant parce que il allie l'innovation sociale et les politiques tout au long de la vie. Il va décloisonner les acteurs, que ce soit de l'emploi, du social, du médical, du médico-social. Mais tout ça, ça prend du temps, parce que c'est pas les habitudes qu'on a. Donc il faut progresser, il faut accepter de discuter avec des personnes qui n'ont pas les mêmes réflexes. Et c'est à nous d'accélérer ça, parce qu'aujourd'hui, on doit avoir une politique plus sociale, qui va donner de la justice sociale, de la justice environnementale. Forcément, ça marche ensemble. Et ça, il faut l'accélérer, parce qu'effectivement, on a cette étiquette de Macron président des riches qui colle à la peau, alors qu'on a de formidables outils qui sont en place, mais il faut entraîner énormément de couches d'acteurs vers cette dynamique nouvelle.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, ceux qui tiennent les cordons de la bourse sont issus de la droite, et d'une droite très libérale. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre justement dans cette majorité? On le voit là, votre regroupement, c'est 20 personnes pour l'instant qui sortent du bois, peut-être d'autres vont vous rejoindre. Est-ce que vous n'êtes pas quand même très minoritaire dans ceux qui veulent une inflexion pour tenir l'équilibre justement sur le plan social?
Je ne pense pas qu'on soit minoritaire. Ce qui manque peut-être, c'est aujourd'hui de mieux comprendre les différents mécanismes budgétaires. Et oui, justement, je pense que l'enjeu qu'on a sur les prochains budgets, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de budget de prévention. Et ça, c'est pas simple à faire comprendre. C'est pas simple de savoir où flécher. Avant-hier, je posais une question à la ministre de la Santé, justement, sur l'accompagnement à la parentalité. Pour moi, c'est vraiment la base de soutenir les accidents de la vie, de pouvoir justement sortir du déterminisme social. C'est vraiment déjà aider la cellule familiale dès les premiers jours, dès la grossesse. Et ça, c'est de l'accompagnement à la parentalité. Un enfant qui tombe malade, voilà. Et aujourd'hui, c'est 0,5% du budget de la branche famille. Donc on voit le peu de moyens qui sont attribués à des politiques de prévention. L'accompagnement à la parentalité, c'est de la prévention, mais c'est aussi réparateur. Donc on joue sur les doubles volets, et pour autant, on n'a que 0,5% du budget de la branche famille. Donc demain, enfin dans les prochains budgets qu'on va voter, il faut qu'on arrive à faire passer cette idée que l'investissement dans la prévention, c'est aussi important que de développer le capital, de développer les richesses. Et c'est sur ça qu'on travaille avec ce collectif et qu'on va certainement agréger plus de députés en les éclairant par cette compréhension qu'on a de ce mécanisme budgétaire.
Alors, on l'a dit, vous êtes co-auteur d'un rapport sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. C'est une compétence du département aujourd'hui. Et là, ça, c'est un peu technique, hein, on risque de perdre nos auditeurs, mais en gros, vous projetez la mise en place d'un revenu universel d'activité qui fusionnerait plusieurs prestations sociales pour simplifier et améliorer, c'est ça,
oui.
la logique. Il y a des inquiétudes, malgré tout, forcément, de certaines fédérations qui s'occupent des travailleurs sociaux, entre autres, je pense la FNARS, et en particulier sur votre en même temps, c'est-à-dire vous parlez aussi de conditionner peut-être des... en tout cas, l'idée est posée... des aides à des gestes de réinsertion, peut-être donc à des contreparties. Et là, ça fait peur à un certain nombre de gens en disant attention, il ne faut pas conditionner l'aide. On a besoin d'une aide, on doit l'avoir.
Alors, si on prend l'exemple
du... personne.
Oui, si on prend l'exemple du RSA, il y a déjà des conditions. Mmh. Donc, en fait, ce discours-là...
Le regrette.
Oui, mais ce discours-là, finalement, aujourd'hui, il n'a pas trop de sens. Ça existe déjà, les droits et les devoirs dans la solidarité. Et on a une solidarité qui est sur un mécanisme de droit, mais qui implique des devoirs citoyens, de toute façon. Enfin, on a tous des devoirs citoyens. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire que la solidarité, c'est un droit. Donc, il n'y a pas à discuter quand on est dans une situation où on peut avoir recours à la solidarité. Ça doit être un droit, ça doit être automatique. On doit vraiment... c'est posé dans notre législation comme un droit. Aujourd'hui, ce n'est pas encore dans la pratique réellement pour tout le monde un droit. Et ça, on doit passer par l'automatisation pour ne plus se poser cette question. La solidarité, c'est un droit. Quand on est dans une extrême pauvreté, quand on est dans des difficultés de la vie, on doit avoir ces filets de sécurité que prévoit l'organisation de notre solidarité. Et après, oui, qu'il y ait des devoirs à côté. Mais c'est évident, mais c'est... Moi, quand j'ai fait mon rapport sur le RSA, personne ne m'a demandé de supprimer les conditions. Les conditions qui sont de pouvoir rencontrer régulièrement le conseiller emploi, l'assistante sociale, mais c'est pour définir, justement, pour définir des projets. Et de quoi se plaignent les bénéficiaires aujourd'hui du RSA? Ils se plaignent de ne pas pouvoir assez voir régulièrement des personnes qui les soutiennent, qui les accompagnent dans leurs projets. La première chose, c'est d'écouter la personne sur ses besoins, sur ses projets, de définir un chemin avec elle et de l'aider petit à petit à construire ce chemin. Et ce n'est surtout pas la volonté des bénéficiaires aujourd'hui d'être laissé seul, et ils se plaignent beaucoup plus de ne pas avoir d'accompagnement que d'avoir un accompagnement soutenu. Donc aujourd'hui, cette contrepartie n'est pas un mot qui est approprié. C'est aujourd'hui les obligations en termes de RSA, c'est pas seulement le versement d'une prestation, c'est l'accompagnement des personnes. Et ça, ce n'est pas rempli aujourd'hui. Donc il y a des obligations qui doivent être respectées par l'administration et aussi par les bénéficiaires. Une fois qu'ils se sont engagés dans un accompagnement, ils continuent.
Alors je ne sais pas si c'est une ruse de l'histoire, mais il se trouve que votre prédécesseur, il doit y avoir un microclimat dans le 7-8, qui n'est pourtant pas la circonscription la plus pauvre de Marseille, mais votre prédécesseur, Dominique Tian, avait travaillé aussi, avait produit des rapports sur la question du RSA. Alors lui, il avait une approche très particulière. En gros, je résume et je simplifie, il faisait la chasse à la fraude fiscale, pas à la fraude fiscale, le lapsus, à la fraude aux prestations sociales, en disant qu'il y avait beaucoup d'abus et qu'il fallait y mettre de l'ordre et qu'en gros, surfant sur une opinion, un point de vue qui est souvent partagé, certains abusent et profitent. Des aides sociales. Votre regard sur cette approche?
Alors, en même temps que mon rapport sur le RSA, il y a eu un rapport qui a été demandé donc à Julien Damon et Christine Cloirec sur la juste prestation. Et donc Julien Damon, qui est quelqu'un qui travaille sur le sujet depuis très longtemps, un sociologue, explique que de toute façon, notre système de solidarité fuit. Et quand il fuit, en fait, c'est au détriment des personnes qui en ont besoin. Donc aujourd'hui, il y a un système qui n'est pas toujours très simple, et ce manque d'automaticité fait que des fois on verse des sommes alors qu'on ne devrait pas. Donc il y a des... Après, c'est terrible, le versement des indus, quand il y a rattrapage, ça met des personnes dans des situations extrêmement complexes. Donc je ne parlerai pas de fraude, mais aujourd'hui on a besoin de remettre à plat un système, d'apporter une automaticité pour qu'il n'y ait plus d'erreurs. Moi, je parle d'erreur. Il ne faut plus qu'il y ait d'erreur, parce que quand une personne qui va toucher un SMIC se retrouve à devoir rattraper du RSA d'il y a 5 ans avec 500 euros par mois, vous faites comment?
D'accord.
De rattrapage.
J'ai fait un lapsus tout à l'heure, mais Dominique Tian, effectivement, lui-même condamné pour blanchiment de fraude fiscale, quand même 12 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité. et toujours premier adjoint en mairie de Marseille. Est-ce que là, pour vous, il y a un souci en matière d'exemplarité? Alors, évidemment, il a fait appel.
C'est pas à moi de commenter ça, en fait. C'est une décision de justice. Il fait appel, il peut garder son mandat, il garde son mandat, il
a naturel. Été élu. Pourtant, au niveau de l'État, il y a une espèce de pratique qui fait que quand un élu, parfois, est comme ça mis en accusation pour certains faits, on lui demande de se retirer, de prendre la distance pour ne pas impacter le gouvernement.
Le gouvernement fait ça, oui, parce que c'est la volonté d'Emmanuel Macron, au départ, quand il a fondé En Marche. Dominique Tian n'est pas dans ce parti-là. Donc
mais est-ce qu'à l'échelle locale, dans une municipalité, sur un poste aussi important que le numéro 2, finalement, un premier adjoint, il ne faudrait pas aussi parfois savoir prendre du champ?
Je pense que les attentes des citoyens aujourd'hui, c'est d'avoir des élus qui sont irréprochables. Donc c'est sûr que c'est voilà, je pense que c'est aux citoyens, effectivement, d'apporter ces éléments-là. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que on a effectivement une attente d'exemplarité forte. On a fait cette campagne présidentielle où on a dit qu'on aurait des élus exemplaires. Et on voit bien que c'est ce qu'attendent les Français. Et ça a été très apprécié pendant la campagne et ça nous est demandé régulièrement de montrer qu'on est toujours irréprochable.
Alors, acte 2 du quinquennat, Édouard Philippe a fait des annonces. Est-ce que par rapport justement à votre souci de rééquilibrage, vous sentez que vous avez des chances d'être entendu?
Alors, oui, sur le discours de politique générale d'Édouard Philippe, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des éléments intéressants. D'abord sur l'écologie, il a fait quelque part un mea culpa. Donc c'était intéressant de dire finalement c'est pas ma fibre première mais je vois bien qu'il faut que je m'y mette. Et surtout il l'a fait dans un sens qui moi m'intéresse particulièrement, c'est qu'il a parlé des sciences avant tout et de dire on doit beaucoup plus finalement faire de lien entre la science et la politique dans le sens où la science doit pouvoir éclairer le politique parce que justement on va pas aller dans une logique de décroissance mais il faut qu'on rationalise nos consommations et il faut qu'on puisse aussi avoir une croissance environnementale. Ça veut dire de l'innovation, ça veut dire des nouvelles façons de vivre, ça veut dire vraiment des choses qui vont nous ouvrir vers une autre société. Une société qui sera beaucoup plus respectueuse de l'environnement, mais pour ça, il faut quelque part regarder, être éclairé par les éléments scientifiques. Et ça, je trouve que c'est à saluer parce qu'on ne l'entend pas assez. On peut avoir des fois de la défiance vis-à-vis des experts et des sciences. Et moi, je voudrais souligner aujourd'hui qu'on a un très beau monde scientifique en France qui nous apporte vraiment... Beaucoup de rayonnement à l'international, il faut saluer leurs efforts.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Alors l'écologie, ben, parlons-en, c'est un de vos dossiers. c'est quand même pas un petit peu facile de dire, allez, je cite Édouard Philippe, les 12 prochains mois seront ceux de l'accélération écologique. Il va falloir bien accélérer parce que les deux premières années, c'était quand même pas ça. Il y a eu le départ un peu fracassant de Nicolas Hulot, avec beaucoup d'espoir au départ et déçu vis-à-vis des attentes.
Alors, le dossier de l'écologie, alors moi, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je me suis engagée depuis le début de mon mandat, alors en passant par la qualité de l'air, en étant marraine de l'association L'Air et Moi à Marseille, et puis petit à petit en travaillant aussi avec tous les acteurs de l'air à Paris, en France. J'ai créé en fait un groupe d'études à l'Assemblée nationale pour pouvoir agréger plusieurs parlementaires et donc là de tous bords, puisque finalement la pollution de l'air, ça n'a pas de... Les clivages politiques n'ont plus de sens face à ça. Donc ce groupe d'études en fait doit travailler sur les impacts sur la santé de l'air extérieur et de l'air intérieur. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire en fait dans ce groupe d'études? C'est de pouvoir développer un peu un réflexe air dans nos lois. À chaque loi qui passeront et qu'on votera, on essaiera de voir en quoi elles peuvent améliorer la qualité de l'air. Donc sur Élan, j'avais commencé à travailler avant que ce groupe d'études ne puisse voir le jour. Donc c'est de longue haleine, hein, de créer un groupe d'études à l'Assemblée. Mais donc j'ai pu apporter des éléments sur Élan et ça répond en termes d'écologie et de santé, puisque du coup les prochains codes de construction devront tenir compte de la santé des occupants. Et à la fois, on agit sur la santé des occupants, mais on va forcément agir sur l'impact des consommations. Parce qu'aujourd'hui, on a On a des réglementations thermiques qui incitent à faire des boîtes étanches. Et quand on fait des boîtes étanches et que le bâtiment ne respire plus et que les occupants finissent par respirer mal eux aussi, ils vont avoir des comportements qui vont générer qui vont continuer à accentuer la dégradation du bâtiment et qui vont générer des surconsommations. Donc on n'atteint pas l'objectif de performance énergétique et en plus on rend malade les occupants. Donc demain, les futurs codes de construction devront tenir compte de la santé des occupants, les comportements seront plus adaptés et on pourra avoir un effet bénéfique sur la santé et bénéfique sur les consommations.
D'accord. Alors vous défendez, par exemple, le développement d'îlots de fraîcheur en ville. Alors,
oui.
Il commence à faire chaud. sur une ville comme Marseille, ça donnerait quoi ça? Enfin, on se dit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un gadget? Ça serait quoi des îlots de fraîcheur à Marseille, par exemple?
Alors, les îlots de fraîcheur, en fait, c'est avant tout des espaces de nature. C'est des espaces où on laisse le sol finalement perméable, mais on laisse le sol avec un certain, des feuillages, tout ce qui permet finalement d'améliorer la qualité de l'air, mais aussi de créer du rafraîchissement, de l'ombre, créer de l'humidité.
Si on prend Marseille, une des caractéristiques du bilan de Jean-Claude Gaudin, c'est l'immobilier. Hein, c'est-à-dire que dès qu'il y a des zones à construire, on y va, hein, on sort la bétonnière.
Voilà, c'est globalement toutes les grandes villes souffrent.
Il faut réglementer, geler certains programmes immobiliers,
préserver des espaces de nature en ville. Ce qu'on voit aujourd'hui, les études scientifiques montrent que globalement la ville devient un refuge en fait pour la biodiversité. Parce qu'il n'y a pas de pesticides en ville, par exemple. Et la nature en ville est une source de bien-être pour les habitants. C'est une source, justement, ça absorbe le bruit, ça absorbe les pollutions, ça permet de se retrouver aussi, ça permet de faire du lien social. Donc, tous ces espaces, ces îlots de fraîcheur qui permettront aussi de limiter l'élévation de température, qui est quand même dramatique pour la santé des habitants et particulièrement des personnes âgées. Donc, ces îlots de fraîcheur apportent de multiples services aux populations et ça veut dire préserver des espaces de nature en ville. C'est aussi une volonté du gouvernement annoncée dans le plan biodiversité. Et donc, il faut aussi que ça passe par des règles de préservation. Et par exemple, on a l'exemple du boulevard urbain sud dans les quartiers sud de Marseille, qui va supprimer beaucoup d'espaces de nature. Et je l'ai dit déjà publiquement, ce projet doit être re-questionné parce que ce projet enlève beaucoup d'espaces de nature et ne va pas nécessairement rendre les services attendus. Au vu des études que moi j'ai pu consulter, il y a un certain nombre de points qui restent à éclairer. Donc je pense que ce programme attend depuis 70 ans, il peut attendre encore quelques années, être re-questionné.
Vous connaissez les arguments, hein. Il faut désengorger une situation.
Oui, après si on doit fermer des crèches, fermer des hôpitaux parce qu'on aura fait une rocade aux abords et qu'on dépasse les seuils d'émissions... d'émissions de particules fines, on sera un peu embêté. Si on enlève des jardins partagés qui permettent du lien social, qui permettent de l'éducation pour les enfants, comment mieux se nourrir, enfin voilà tout ce qui fait un citoyen engagé et aussi prêt à partager avec les autres. Donc les bénéfices sur la qualité de l'air ne sont pas probants dans les études que j'ai pu lire. Les bénéfices sur la circulation ne sont pas probants non plus et on enlève de l'espace de nature. Alors qu'on a beaucoup de deux fois deux voies dans cette zone-là. Donc je pense qu'il y a un tracé à repenser et il y a surtout des mobilités nouvelles à mettre en avant beaucoup plus que la voiture.
Un mot, je ne suis pas le premier à vous le faire remarquer, mais forcément les Verts viennent d'obtenir un beau succès au niveau des Européennes, et peut-être de façon moins anecdotique, on a vu la jeunesse aussi, 25% des jeunes qui ont voté aux dernières élections, qui ont voté écologiste. Et chez les Verts, il y a un tabou, c'est celui du nucléaire. Vous me voyez venir.
Pouvoir m'expliquer.
Je ne l'ai pas dit dans le portrait, mais vous travaillez, avant d'avoir votre mandat, dans un centre d'ingénierie des centrales nucléaires, l'EDF. Mmh. C'est-à-dire chez le grand méchant.
Le grand méchant, oui.
Alors comment on peut... Vous faites partie de ceux qui disent que le nucléaire, c'est très bien, parce que il n'y a pas de...
Moi, je suis pour le mix énergétique, oui. Donc ça veut dire le nucléaire au milieu. Hein.
Oui.
Je suis pour le mix énergétique. Le nucléaire, il faut rappeler quand même que c'est la seule industrie en France qui est autant surveillé. Enfin, c'est vraiment un très très bel outil et je pense que il faut vraiment travailler sur l'explication de cet outil. Aujourd'hui, il y a des centres locaux d'information qui ont été créés par la loi de transparence sur le nucléaire, qui sont là pour accueillir les populations et leur expliquer comment cette énergie fonctionne et surtout comment on assure, comment on maintient la sûreté de ces tranches et comment on traite le combustible, parce que c'est quand même le gros sujet. Force est de constater, moi j'ai participé à la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire qui a eu lieu à l'Assemblée, force est de constater que ces centres locaux d'information aujourd'hui manquent un peu de... ont besoin de plus d'envergure et d'expliquer mieux, d'être moins dans une parole d'expert. On est toujours dans comment on dialogue monde un peu différent monde parce que les vocabulaires sont pas les mêmes. Et quand vous avez des experts du nucléaire qui restent dans leur jargon nucléaire et qui parlent finalement aux citoyens qui va travailler sur d'autres sujets, qui va être technique dans d'autres sujets mais pas sur le nucléaire, la rencontre elle se fait pas. Donc tout est un travail de vulgarisation et le nucléaire nous apporte des choses intéressantes sur le plan environnemental, pas d'émissions de CO2. Il y a un sujet sur le combustible, mais il y a des travaux qui sont en cours pour justement fermer le cycle combustible et pouvoir mieux recycler toujours davantage, parce qu'il ne s'agit pas d'être toujours dans la prise de ressources primaires. Mais aujourd'hui, ce nucléaire nous apporte une indépendance énergétique, nous permet d'avoir un niveau d'émission de CO2 qui est vraiment très bas dans notre production d'énergie.
On connaît tout ça. Après, à nouveau, c'est tout récent, annonce d'un nouveau retard sur le chantier de l'EPR à Flamanville, ouverture repoussée à 2022. Hein. C'était 2012 au départ, des coûts qui explosent. Et est-ce que là aussi, on n'est pas dans un déséquilibre? C'est-à-dire, vous dites qu'il faut un mix, mais aujourd'hui, on est le seul pays au monde où le déséquilibre est tel en faveur de l'industrie nucléaire. Est-ce que Nicolas Hulot est parti aussi pour ça du gouvernement? Est-ce que vous n'allez pas trop doucement dans le rééquilibrage dont vous parlez?
Je voudrais rappeler la 380 qui a eu d'énormes retards. Enfin, et on n'est pas sur une centrale nucléaire, on est sur un avion. C'est complexe un avion, mais c'est quand même nettement moins complexe qu'une centrale nucléaire. Toutes les grandes innovations prennent du retard parce que c'est extrêmement difficile. Et pour moi, la difficulté première de l'EPR, c'est le niveau de sûreté qu'on attend. On a une exigence de sûreté en France qui est extrêmement élevée, une autorité de sûreté qui est extrêmement rigoureuse. Et je pense que c'est à souligner et c'est très important de l'expliquer parce que on doit être fier de tout ce qu'on a bâti sur l'organisation de la sûreté de la production nucléaire en France. Ça n'a aucune équivalence nulle part dans le monde. Donc je pense que c'est vraiment intéressant qu'avec cette technicité, cette organisation qu'on a en France qui n'est égalée nulle part ailleurs, finalement le nucléaire soit produit en France.
D'accord. Et votre défense de la croissance verte, qui est votre approche en fait de l'écologie, s'apparente pour d'autres écologistes comme du greenwashing, c'est-à-dire
cette
façon finalement de ripolliner des politiques bien classiques, industrielles.
Alors en ce moment j'ai une mission sur les perturbateurs endocriniens. Mm-hmm. La croissance verte, c'est un équilibre et on a vraiment besoin de rester dans un progrès, mais un progrès qui soit respectueux de l'environnement. Et là, en ce moment, on m'a confié une mission sur les perturbateurs endocriniens. Donc, je suis co-rapporteur avec Lauriane Rossi, qui est à la commission développement durable. En fait, on essaie de décloisonner à l'Assemblée aussi. On essaie de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une vision environnementale, on puisse aussi avoir la vision santé, parce que ça marche santé et sociale, ça marche ensemble, et c'est comme ça qu'on pourra justement porter davantage les sujets environnementaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on est dans une écologie punitive et qu'elle est rejetée. Elle a été rejetée cet hiver. Alors que si on arrive à vraiment faire ce qui est le développement durable, bâti sur plusieurs piliers, l'environnement, le social, la santé, on va pouvoir pousser vraiment des politiques environnementales. Et donc cette mission sur les perturbateurs endocriniens, c'est comment finalement, quels sont les effets des contenants en plastique, qu'ils soient alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques, sur la santé humaine et l'environnement. Ça, c'est un un très beau sujet qui tombe en même temps qu'une loi qui va nous arriver sur l'anti-gaspi, donc qui vise à réduire les plastiques et aussi améliorer le recyclage. Ça arrive au moment où on change les députés européens. Donc, comme beaucoup des règles sur les produits chimiques sont issues de l'Europe avec le règlement REACH, on va pouvoir porter des propositions auprès de ces nouveaux parlementaires et voilà, leur demander de faire d'influer sur cette réglementation pour qu'elle soit toujours plus protectrice des populations. Donc, greenwashing, je sais pas. Enfin, c'est moi, je porte des sujets avec conviction et je pense que le mix énergétique, c'est important. Aujourd'hui, c'est essentiel pour notre société et qu'on doit sortir d'une écologie punitive, mais qu'on doit vraiment être porteur d'une écologie qui soit accessible à tous. Et donc, les perturbateurs endocriniens, moi, à chaque fois, ce que je demande aux interlocuteurs, c'est dans les solutions que vous amenez, qu'elles soient accessibles à tous et pas à une seule tranche de la population. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile. Hein, vous avez une tranche de la population qui dit pas de problème. Je sais ce que j'achète, je prends mes produits à tel et tel endroit, et puis j'évite tout, j'ai du temps... Mais ça, c'est pas accessible à tous. Et demain, on doit avoir une société où chacun va être égal par rapport à la santé. Aujourd'hui, 70% de notre santé, c'est les déterminants sociaux. Ça, c'est plus possible demain. Et ça va passer par l'écologie et du social.
D'accord. Alors, venons-en, l'émission avance, à notre territoire et puis à une séquence politique qui est déjà présente. Et vous avez mis les deux pieds dans le plat, même si vous n'aimez pas trop la cuisine politicienne, mais vous y êtes allé. Et alors, je m'adresse à nouveau à Tché Claire Pitola, qui signe une tribune dans le JDD avec 4 députés parisiens, dont le médiatique Cédric Villani, lançant une alerte sur la façon dont sont choisis les futurs candidats municipaux dans votre mouvement En Marche, en disant il faut une constitution citoyenne, on ne peut pas se contenter d'une désignation verticale par le haut. Pourquoi ? Alors, en plus, il n'y avait que des Parisiens sur cette tribune, et vous ? Qu'est-ce qui vous a pris ?
Je dois passer trop de temps à Paris. Si je dis ça, tous les Marseillais vont m'en vouloir.
Et qu'est-ce que ça dit aussi sur les enjeux marseillais dont on va parler tout de suite ?
Oui. Ça me rappelle profondément à quel point je suis attachée aux valeurs du mouvement. Les valeurs du mouvement, c'est la consultation, la concertation, l'écoute. Et dans nos précipitations, on a des agendas, enfin, on a eu un hiver compliqué, on est pas mal chahuté sur les territoires, parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a finalement un parti au gouvernement qui n'a aucun allié politique sur les territoires. Enfin, on a des personnes qui, petit à petit, viennent nous voir et nous expliquent que effectivement, nos idées les intéressent. Cependant, dans les collectivités territoriales, nous n'avons pas de groupe La République En Marche. Donc, c'est quand même pas très simple pour organiser la politique du gouvernement. Donc, des fois, ça nous prend dans un rythme un peu effréné. Et je pense qu'à chaque fois qu'on est pris dans un rythme effréné, il faut revenir à nos fondamentaux, il faut se recentrer. Et la concertation, l'écoute et la consultation, ce sont les valeurs premières de notre mouvement. Donc là, c'est dire, attention, on va investir des personnes pour les municipales dans les grandes villes. Revenons à nos fondamentaux et apportons à la CNI, on ne vient pas remplacer le rôle de cette commission nationale d'investiture. Il est hors de question, c'est comme ça qu'on fonctionne avec une commission nationale d'investiture. Mais apportons-lui les éléments de la base, du terrain, pour qu'elle puisse prendre une décision éclairée.
En même temps... À nouveau, EM En Marche, c'est aussi Emmanuel Macron, et vous avez toujours, et votre mouvement est né aussi à travers une figure charismatique, celle du président, du jeune président. Et il y a beaucoup de verticalité aussi dans votre organisation, et même là, la crise des Gilets jaunes, elle s'est aussi soldée par un interventionnisme très fort du président, comme la campagne des européennes, qu'il a pris en main. Et donc, on s'attend aussi à ce que sur une grande ville comme Marseille, le président... fasse des choix.
Oui,
et ça,
bien sûr.
Vous trouvez pas ça illégitime ou vous dites non. Enfin, il faut partir d'en bas.
Moi, je pense que c'est légitime que le président donne son avis sur les grandes villes de France. Et ça peut pas être autrement. Mais c'est important aussi de lui apporter des éléments de décision. Et donc. Que les candidats à l'investiture dans les grandes villes puissent exposer vraiment dans le calme, avec le temps nécessaire, leur projet, Enfin, c'est la base de ce qu'on a porté en marche. On dit on part d'abord d'un projet et ensuite on ira sur la personne qui est la mieux à même de le porter.
Allez, on y va. Marseille, donc il y a déjà un candidat officiel, un des députés, de vos collègues, Saïda Hamada, qui est candidat à la candidature Quartier Nord. Et puis on parle de Yvon Berland, président de l'université d'Aix-Marseille, l'AMU, et Jean-Philippe Agresti, doyen de la faculté de droit. Qui a votre préférence, je crois.
Non. Oui, je ne l'ai pas caché.
Clairement, vous ne le cachez pas. Et pourquoi?
Non,
alors
je ne le cache pas, parce que ça fait un an et demi que je travaille avec lui.
Un quadra.
Oui. Oui, ça fait ça fait un an et demi, moi, que je travaille avec lui. J'ai travaillé avec lui sur la révision constitutionnelle, puisque c'est le doyen de la fac de droit, et je lui ai demandé de m'apporter des éléments pour, finalement, qu'on puisse organiser des réunions publiques, prendre l'avis des citoyens sur cette réforme qui va quand même changer pas mal la vie politique, le paysage politique.
Personne ne le connaît, c'est pas un inconvénient?
Personne ne le connaît, ça dépend des milieux, il est quand même doyen de la fac de droit.
En tout cas, Marseillais moyen, mais si on fait un micro-trottoir.
Oui, après c'est tout l'enjeu d'avoir un programme et de pouvoir ensuite rentrer en campagne avec une personne qui va incarner ce programme et qui va l'expliquer. Moi, je faisais pas de politique avant les législatives et au final, je pourrais mieux faire que ce que j'ai fait pendant 2 ans, mais j'ai fait déjà pas mal de choses pendant 2 ans, donc ça prouve qu'on peut avoir, c'est le mouvement en marche, partir de la société civile et pouvoir amener des personnes qui ont des compétences et qui vont pouvoir surtout être l'égal des citoyens. C'est important.
Il y a un gros sujet de discussion qui n'est pas uniquement une histoire de cuisine politicienne, c'est l'histoire de comment vous vous positionnez par rapport à une majorité sortante qui est là depuis un quart de siècle et qui a un bilan. Est-ce que ce bilan, vous le partagez? Est-ce qu'il est possible de faire des alliances avec les Républicains, avec l'équipe sortante, avec des adjoints de Jean-Claude Godin, avec Martine Vassal qui est en train en ce moment, de façon très insistante, de faire des appels du pied vis-à-vis des marcheurs en disant qu'il faut s'allier. Est-ce que ça, c'est possible?
Je pense que s'il y a bien quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, c'est pour dire que Marseille ne se gagne pas seul et qu'il faut forcément appeler à un rassemblement. Après, c'est comment on le fait. Comment on le fait? Aujourd'hui, on s'aperçoit, ça fait 2 ans finalement que ce gouvernement, cette majorité travaille, et ce qu'on voit finalement de ce qu'on arrive à mettre en place au niveau national, c'est que bien souvent, il vaut mieux passer par une logique contractuelle ou de partenariat, et que ça finit par emporter finalement sur des indicateurs communs, des objectifs communs, on va avancer petit à petit dans cette campagne, on va investir donc un candidat, on va avoir notre projet en marche, mais il est fort à parier que seul on aura du mal à gagner la ville. Donc il faudra à un moment se rejoindre avec des personnes sur des valeurs, des objectifs communs, un projet, et je pense qu'on peut rentrer dans une logique de partenariat.
Parce que clairement on avait Alexandra Louis à votre place, haute députée marseillaise, et qui à ce micro était catégorique en disant je n'ai aucune confiance dans cette majorité sortante, elle s'occupe du problème du logement, et elle a un regard extrêmement critique sur la façon dont les choses ont été prises en main et sont prises en main encore aujourd'hui par cette majorité. Elle dit impossible de s'allier avec LR, et puis il y a une semaine, les comités marseillais d'En Marche ont voté contre une alliance avec les Républicains. Est-ce que vous partagez cette option ou est-ce que vous êtes plus réservé et vous ne voulez pas fermer toutes les portes et vous interdire certains possibles?
Vous l'avez dit dans ma biographie, j'ai tendance à être plus mesuré. Je pense que c'est difficile de voir tout noir dans une couleur politique, et enfin, mis à part les extrêmes. Moi, j'ai dit que je ne ferais jamais alliance avec les extrêmes, par exemple. On m'a demandé si je ferais alliance avec ce grand collectif large de la gauche qui irait de LFI jusqu'au PS. Je dis, moi, à partir du moment où il y a la France insoumise, je ne pourrais pas m'associer. Je ne m'associerai pas aux extrêmes. Après, sortie des extrêmes, je pense qu'il faut aller chercher les personnes et les compétences. Et donc, c'est là où je ne vais pas définir de telle famille politique, j'y vais pas, telle famille politique, j'y vais pas. Je pense qu'on doit revenir à nos fondamentaux, chercher des compétences, des personnes mobilisées et moteurs.
Donc, quand Brigitte Macron, c'était récent, ça a beaucoup fait réagir aussi, y compris dans vos rangs, descend à Marseille, rend visite à Jean-Claude Godin, déjeune avec lui, avec tous ses adjoints. Pas de soucis?
Aujourd'hui, on a quand
c'est
même...
C'est interprété comme un message politique, comme un rapprochement. Ça correspond au moment où Martine Vassal, qui est pratiquement désignée candidate pour les LR, dit « moi, j'aimerais m'allier avec En Marche.
Je vois pas comment on ne peut pas écouter le maire de la deuxième ville de France, la présidente du département et de la métropole, le président de région. Enfin, on ne peut pas ignorer les personnes qui sont à la tête des collectivités territoriales de la deuxième ville de France, d'un département important de France. Quand Gilles Legendre est venu à Marseille, la première chose que je lui ai dit, notre président de groupe, je lui ai dit « il faut rencontrer le maire de Marseille ». C'est juste du respect républicain et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas travailler dans ce respect républicain. Ça ne veut pas dire qu'il y aura alliance, c'est un respect républicain.
Alors, l'émission, elle est diffusée un samedi et il se déroule à Marseille des états généraux de Marseille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est des collectifs, c'est des gens qui se sont mobilisés en particulier après les événements de novembre, Noailles, et qui expriment une exaspération, un état d'urgence, qui décrivent une situation de cette ville fragmentée territorialement, socialement. Oui. Vous êtes élu d'une circonscription, une des plus aisées de Marseille. Est-ce que vous pensez sérieusement que votre mouvement pourrait apporter des solutions à cette urgence-là, dans cette ville-là?
Oui, c'est cette ville...
Et éventuellement, allier donc avec la majorité sortante.
Allier avec la majorité sortante. Je vous ai parlé de personne. Ne me ramenez pas à ce que je n'ai pas dit. J'ai parlé de partenariat, de personnes mobilisées autour d'intérêts, de projets, d'objectifs communs. Je pense que ça, c'est important de le rappeler parce que c'est vraiment... aujourd'hui, il s'agit d'agréger des forces pour vraiment... Je pense que cette ville a besoin d'une vraie task force et qui va durer longtemps. Donc, il va falloir beaucoup d'énergie. Mais il y a de grands chantiers. Oui, cette ville est mal portante. Cette ville est mal portante, elle est fracturée, elle n'a pas les infrastructures qu'ont d'autres grandes villes. J'ai vécu à Lyon, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Toulouse, donc dans des grandes villes qui apportent vraiment beaucoup de commodité de tous les jours aux habitants qui ont plus de réponses face justement au mal logement et je pense qu'il faut vraiment que cette ville rentre dans un mode de grand chantier qui permette d'apporter des réponses solides à des populations. Donc on a une grande partie de la population qui est en situation de pauvreté, de précarité, mais aussi sur des situations moins compliquées, en limite de seuil, par exemple, de prestations sociales, on va avoir des personnes qui vont être extrêmement en difficulté pour se déplacer, pour aller travailler, pour simplement laisser ses enfants à l'école parce qu'il y a régulièrement des grèves, la garderie ne dure pas assez longtemps. Comment on travaille quand on doit revenir chercher ses enfants à 11h30? On a eu beaucoup de temps pour la mise en place des temps d'activité périscolaire, ça change tout le temps. Enfin, il faut vraiment arriver à une ville plus durable et pour ça, il va falloir entamer de grands chantiers sur beaucoup de sujets.
Là, il y a une image, une station de métro fermée, Jules Guedt, c'est au nord, parce que trois immeubles en ruine menacent de s'effondrer. C'est cette campagne-là qui s'annonce et ce projet qu'il faut construire pour Marseille, est-ce qu'il doit placer toutes ces problématiques au centre de... Et comment le faire? Comment répondre à ça?
Oui, alors sur les arrêtés de péril, le ministre Julien de Normandie vient régulièrement à Marseille. Il essaie de faire en sorte que les politiques s'accélèrent là-dessus. L'État a apporté plusieurs centaines de millions, donc c'est pas rien. On est dans une situation qui est critique, qui dure depuis longtemps et qui va mettre du temps à être résorbée. Mais oui, ça fait partie des priorités. On ne peut plus tolérer qu'il y ait autant de mal logement, de sans-abrisme dans la deuxième ville de France.
D'accord. Vous êtes quatre élus, marcheurs, députés sur Marseille. Vous travaillez ensemble, vous y arrivez, ou finalement, par la mécanique institutionnelle, vous êtes chacun dans votre couloir, dans votre circo?
Bien sûr qu'on se voit. Après, c'est vrai qu'on est chacun dans des commissions différentes et ça nous apporte beaucoup de richesse. Je pense que pour l'élaboration du programme, c'est important justement du programme pour Marseille, puisqu'on aura chacun finalement travaillé nos sujets sur de multiples... Enfin, on les aura confrontés à de multiples territoires, donc pouvoir adapter à Marseille, ce sera intéressant. Et on est aussi sur des circonscriptions qui ont une sociologie très différente. Donc forcément, on va pas toujours se se retrouver sur les mêmes événements, sur les mêmes... Mais oui, oui, on échange et on va mutualiser tout ça pour le projet. Ce sera vraiment important et riche.
Il y a un monde entre les circos d'Alexandra Lui, Saïda Hamada et la vôtre.
Oui.
Et peut-être nécessité de créer des passerelles entre ces mondes.
Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui besoin d'une ville qui soit où tout soit plus fluide. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les hôpitaux et en étant commissaire aux affaires sociales, j'ai vraiment creusé le Copermo sur la PHM et puis j'ai essayé de travailler sur le financement des hôpitaux dans les... J'ai porté des amendements sur le financement des hôpitaux dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Et par exemple, si on parle du site hospitalier Nord, donc de la PHM de l'hôpital Nord, il y a une vraie difficulté de cloisonnement de cet hôpital, alors qu'on peut avoir finalement un vrai pôle universitaire intéressant. On pourrait développer d'autres activités et on pourrait faciliter l'accès aux populations. Aujourd'hui, il n'y a qu'un bus qui amène à l'hôpital Nord. Comment on peut imaginer qu'un site hospitalier aussi important que l'hôpital Nord, dans un bassin de vie qui a tant de besoins en santé, comment on peut imaginer qu'il n'y ait qu'un seul bus qui amène à cet hôpital? Donc il y a vraiment une logique pour faire en sorte que cette ville, chaque habitant puisse circuler plus simplement, plus facilement, puisse... opérer ses choix plus facilement dans cette ville, il y a un travail. Oui.
Les transports, ça serait un des dossiers que vous pointeriez comme un des chantiers prioritaires dans cette ville et qui ferait le lien peut-être avec vos dossiers sur l'air, sur la qualité de l'air, enfin c'est la question de la place de la voiture aussi. Hein.
Oui, les transports et puis des alternatives. Et puis après beaucoup d'événements qui se mixent, qui soient justement beaucoup plus partagés sur l'ensemble de Marseille. Marseille est une ville très étendue, donc c'est aussi ça qui rend les choses complexes. Hein. L'amiral des pompiers le répète assez souvent sur ses patrouilles et comment il fait ses interventions. C'est une ville complexe par l'étendue. Et donc avec des transports qui sont particulièrement faibles par rapport à d'autres villes de France, donc par rapport à Lyon par exemple, il y a un x5, x10 parfois, suivant si on parle du métro, du bus. Donc c'est un enjeu important, mais il y a aussi à pouvoir apporter différents événements dans différents endroits de la ville. Par exemple, en ce moment, on a le Festival de danse de Marseille qui sort des murs des théâtres pour faire bénéficier de ces spectacles et de la danse à tous.
Alors l'émission se termine. Un des principes un petit peu d'En Marche était d'éviter le cumul des mandats et peut-être aussi le renouvellement. Vous pensez que tout le chantier là que vous avez découvert, que vous êtes à mi-chemin, va tenir sur un seul mandat? Est-ce que vous pensez qu'il faut vous projeter dans la durée ou c'est pas votre problématique?
Alors moi j'ai été habituée très tôt à changer de métier, donc j'ai été formatée comme ça dans mes études, donc c'est vrai que me projeter à 3 ans c'est toujours un peu compliqué. En général je me projette que je vais changer et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai changé de métier à peu près tous les 4 ans. Mais là, la politique, effectivement, ça prend un peu plus de temps. Donc si je peux apporter plus dans quelques temps, oui, je me représenterai au mandat où il y aura besoin de moi.
Vous ne serez pas, par contre, candidate au municipal?
Non, je pense que c'est important de pouvoir finir mon mandat de députée. 2 ans, c'est court déjà pour pouvoir appréhender l'Assemblée nationale et tout ce qu'on peut faire. Donc j'ai besoin des 3 années qui restent. Par contre, vous voyez que je suis très investie dans les municipales puisque j'essaie de pousser des projets, de pousser le candidat qui me paraît être le candidat intéressant et surtout pour qu'effectivement on s'inscrive sur plusieurs mandats dans cette mairie.
Claire Pitola, je vous remercie. Rendez-vous donc aux auditeurs pour une prochaine émission le mois prochain. Au revoir.
La grande tchatche.